Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mettre fin à l'état de siège sans résultat serait comme un échec politique. Déclaration du député Juvénal Mounoubo hier à Goma. L'élu de Walika Léonore qui vous réagit ainsi face aux multiples voix qui s'élèvent pour contester la prorogation à répétition de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Moïse Katumbi, attendu ce lundi à Kisangani pour le lancement officiel de son parti politique, c'est ce qu'a annoncé hier au chef de la Tchopo, le secrétariat général de son parti Ensemble pour la République. Vous entendrez le conseiller juridique de cette plateforme. Et puis, ce matin, nous recevons le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu. Karna Soro parle des résultats des actions menées par la mission onusienne dans le Sud Kivu durant cette année 2021. C'est notamment la démobilisation des plus de 200 combattants. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette déclaration dimanche à Goma du député Juvénal Mounoubo, élu de Walika Léonore Kivu. Il estime que mettre fin à l'état de siège sans résultat serait comme un échec politique. Ce député, membre de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, réagissait ainsi aux nombreuses voix qui s'élèvent actuellement pour fustiger la multiplicité des périodes de prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, alors que l'ADF et d'autres groupes armés de la région sont toujours aussi actifs. Juvénal Mounoubo ajoute que sans la mise en œuvre des recommandations de la commission dont il est membre, le gouvernement risque de travailler en vain. Le lieu de Walikale est au téléphone de Jules Ngala.
Mon point de vue, c'est que mettre fin à l'état de siège sans résultat, ça serait comme si c'était une sorte d'échec politique. Alors, pour s'en sortir, la proposition, elle est simple. C'est les rapports d'évaluation de l'état de siège, l'évaluation qui a été faite par la commission de défense. Et dans ces rapports, on trouve beaucoup de recommandations, notamment les changements de la chaîne de commandement, notamment la ration qu'il faut assurer aux militaires, les soldes, les équipements. Je crois que si on applique ces recommandations-là, il y aurait moyen de capitaliser la prorogation actuelle et d'arriver à des résultats. Mais si on n'applique pas ces recommandations, on ira de prorogation à prorogation et ça donnera l'impression qu'on s'enlise.
Pendant ce temps, à Beni, les animateurs de l'état de siège et les acteurs de la société civile sont à l'école du savoir sur la gouvernance sécuritaire et décentralisation pour le compte des autorités militaires et policières récemment nommées. Cette formation de 4 jours est initiée par les affaires civiles de la MONUSCO Beni en partenariat avec la division provinciale de la décentralisation et réforme institutionnelle du Nord Kivu. Ici, Joachim Siriaki, chef de division provinciale de la décentralisation et réforme institutionnelle au Nord Kivu, parle de l'importance de cette formation. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez, l'état de siège a été décrété à province du Nord Kivu et à Ituri, et on a déployé des animateurs pour gérer les entités territoriales décentralisées, même les entités déconcentrées. Et de ce fait-là, l'autorité provinciale avait constaté que, bien sûr, on s'est focalisé sur l'aspect de la sécurité. Et aujourd'hui, avec la montée en puissance de forces loyalistes, en mutualisant les efforts avec les forces amies de l'Ouganda, on constate quand même qu'il y a une amélioration de la sécurité. Et à cela, l'autorité a voulu que maintenant, il faut qu'on impulse le développement. Donc, quoique il y ait eu retard dans la formation de ces autorités, aujourd'hui, ils sont informés de ce qu'ils doivent faire afin que le développement soit une réalité à côté de la sécurité. Vous savez, on ne peut pas parler développement sans une gouvernance axée sur les résultats. Donc, l'objectif global, c'est impulser le développement afin que le développement puisse chasser les sécurités et que tout le monde se remette au travail et qu'il y ait confiance entre gouvernants et gouvernés afin que la démocratie s'enracine à partir de la base.
Signalons que cette formation qui a commencé en territoire de Beni s'étendra dans le Lubero au mois de janvier prochain. Du côté de l'Ituri, plus de 260 ménages de 6 villages à la limite avec le Nord Kivu dans le groupement Bangolé se vident progressivement de leur milieu depuis presque 2 semaines. Nous sommes dans le territoire de Mambasa. C'est entre autres le village Maou, Lukaya et Ngwaba. D'après des sources sur place, cette situation est due à l'insécurité causée par un groupe de présumés rebelles ADF dans cette entité coutumière. Pour manifester leur ras-le-bol, la société civile ainsi que certains opérateurs économiques économique de la place ont déclenché un mouvement de grève depuis samedi pour protester contre l'insécurité dans cette zone. Ezekiel Mousalia nous fait le point.
C'est depuis pratiquement deux semaines que la situation sécuritaire se dégrade dans plusieurs localités de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. En cause, la présence d'un groupe de rebelles des ADF qui, selon des sources sécuritaires, fouillent la puissance des feux de la coalition FARDC-UPDF dans le Nord Kivu. Environ 6 villages à la limite avec le Nord Kivu voisin sont presque vidés de leurs habitants à la suite de l'insécurité sur la route nationale numéro 44 qui approvisionne ces entités en denrées alimentaires. Témoignage de cet habitant.
Une camionnette qui transportait des divers, on a incendié ce véhicule, le chauffeur a été tué. Ils ont aussi retrouvé les gens qui faisaient les marchés. Ils ont aussi commis beaucoup d'exactions. Ils ont tué les gens, ils ont incendié.
Telle est l'explication qui a poussé la société civile locale de décréter un mouvement de grève pour réclamer l'amélioration de la sécurité dans cette zone, affirme son coordonnateur, John Vouleverio.
Cette sécurité qui provoque dans cette chefferie a impacté très négativement sur la vie socio-économique de la chefferie de Babila Babombi. La population réellement en a très marre.
Selon les derniers rapports de cette structure citoyenne, plus de 260 ménages qui ont fui ces atrocités vivent dans de mauvaises conditions à Biakato. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Ezekiel Mousalia reste avec nous pour parler du commerce des ceintures de friperie dans la ville de Bounia. Pendant qu'un engouement des commerçants ambulants s'observe ces derniers temps sur les artères principales du centre-ville de Bounia, les vendeurs des ceintures, eux, éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leurs marchandises. Ils expliquent cette situation par le fait que les acheteurs s'y ruent surtout vers les habits de luxe pour les fêtes de fin d'année, ce qui constitue un manque à gagner pour eux, disent-ils, suivant ce reportage d'Ezekiel Mousalia.
Il est 11h30 sur les artères principales de la ville de Bounia. Dans les boutiques qui jonchent les boulevards de la Libération jusqu'au marché central de la ville, on remarque plusieurs produits qui attirent la curiosité des passants. Des habits neufs, chaussures, vestes, pagnes et jouets pour enfants. Noëlla, une vendeuse des ceintures des friperies depuis 8 ans, elle explique son calvaire. Avant, nous achetions les ceintures à un prix abordable quand la route était encore praticable. Mais aujourd'hui, la situation est vraiment compliquée. Même payer les études pour nos enfants devient difficile. Cependant, si dans les supermarchés, des sapins de Noël et des ornements en jeu de lumière attirent tout client, il n'est pas le cas pour les gagne-petits qui n'ont pas la possibilité d'accéder et se procurer les objets de luxe. Ces habitants plaident pour l'amélioration de la situation sécuritaire afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins.
Et on ne fête pas lorsque ça brille chez les voisins. On va fêter quoi? Et la nourriture qui provient d'où? Nous attendons seulement que la paix puisse revenir ici.
Signalons que les cérémonies des fêtes de Noël et de Nouvel An s'annoncent très timides à Bounia à la suite des conflits meurtriers qui secouent cette jeune province. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo. Moïse Katumbi Tchapo doit arriver ce lundi 20 décembre à Kisangani, annonce le secrétariat général du mouvement Ensemble pour la République dont il est leader. Le conseiller juridique de cette plateforme l'a annoncé officiellement hier à la presse à Kisangani. Maître Faustin Batongo précise que l'agenda de Moïse Katumbi prévoit notamment le lancement officiel de son parti Ensemble pour la République et bien d'autres activités. Mais qu'est-ce qui explique le choix de la ville de Kisangani? Maître Faustin Batongo explique au micro de Jacques Moukonkolé.
Cela montre l'estime qu'a le président Moïse Katumbi vis-à-vis de la population de la Tchopo, les Boyomens. Et il ne faut pas que l'on puisse oublier qu'au début de l'année 2020, le président Moïse devait lancer le parti politique ici à Kisangani, mais il y a eu report pour cause de Covid-19, par des fois d'ailleurs. Et maintenant, comme c'est un homme qui tient parole, il a voulu honorer les Boyomens, connaît l'importance de ces villes. C'est une ville carrefour, c'est une ville qui a vu naître beaucoup de leaders politiques, en commençant par Patrice Emery Lumumba. C'est à partir d'ici qu'est venu le leadership de Lumumba, et au-delà de ça, c'est plus question de considération vis-à-vis de cette population de la Tchopo. Raison pour laquelle le président a tenu à ce que le lancement de ce parti se fasse ici à Kisangani, et qui est une ville carrefour, qui est une ville qui impulse un peu beaucoup de choses sur le plan politique.
Peut-on avoir une idée sur son agenda dans la ville de Kisangani?
Le président Moïse Katumbi, c'est un homme qui a plusieurs casquettes à la fois. Il est un homme politique, il est opérateur économique, c'est un sportif chevronné. Je ne suis pas dans les secrets de son agenda. jusqu'à présent. Mais je présume, mon humble avis, qu'il sera en contact avec la population et la population aura à lui soumettre certaines situations, certains problèmes du milieu. Et c'est à lui, au fait, de tirer des conclusions par rapport à ce que la population aura à lui dire.
Province de Maïndombe, une délégation de la Commission épiscopale Justice et Paix, CJP de la ville d'Inongo, a déposé samedi auprès du bourgmestre de la commune de Mpongonzoli un cahier de charges contenant des problèmes prioritaires qui dérangent la population locale, à savoir l'insalubrité et le manque d'eau potable dans cette commune. Ce cahier de charges vise à trouver une solution afin d'épargner la population de plusieurs maladies résultant de l'insalubrité notamment, a dit Serge Kebio, secrétaire de cette structure. On l'écoute au micro de Irène Boma.
Nous sommes ici dans le cadre du travail que nous avons reçu de la commission épiscopale JCP, CJP à cycle, parce que nous sommes là pour accompagner les communes. On a pensé bien commencer dans la commune Pongonzoli, qui est une commune phare, disons, de la ville. Et après, nous allons voir avec le temps comment projeter aussi nos activités dans notre commune là. Ce qui nous a poussé, c'est voir la population en train de souffrir. Je pense que vous avez vu comment les gens sont à l'hôpital, comment il y a tant de problèmes. Nous, comme CJP, nous avons simplement réfléchi, de déposer chez le bourgmestre un cahier de charges. Nous avons pris deux problèmes prioritaires, c'était le manque d'eau potable et l'insalubrité sur la commune. Et c'est ça qui nous a poussé de décrire et de déposer chez le bourgmestre pour que demain, quand on parle des cas de l'insalubrité et du manque d'eau potable. Et je pense que nous n'allons pas nous taire, nous allons toujours continuer à faire pression, d'être avec lui ensemble pour l'accompagner aussi et d'avoir une solution dans sa commune. Aujourd'hui là, nous venons de déposer chez le bourgmestre. Ça commence avec lui, c'est lui qui doit tourner sa machine avec sa population. Nous, on va seulement observer et on vient net.
Pour sa part, Baudry Boiliela, bourgmestre de la commune de Mpongonzoli à Inongo, dit saluer l'initiative de la CJP qui, selon lui, accompagne l'autorité locale dans la quête du bien-être de la population de son entité. Il a promis de ce fait de se mettre en œuvre afin de répondre favorablement à ses préoccupations de la population. Rendons-nous à Kindu dans le Maniema pour signaler la remise samedi 18 décembre du matériel médical à l'hôpital général de référence d'Alungouli. Ce don du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba est constitué d'un lot important des matelas et des médicaments. Il a été remis au médecin chef de zone de santé d'Alungouli par le secrétaire national de l'FDC, représentant du ministre. Reportage de Florence Kizalunga.
Composé essentiellement de 60 matelas et des cartons de médicaments, ces dons viennent soulager tant soit peu au problème de cet hôpital. En plus de remerciements, le médecin chef de zone d'Alungouli fait savoir que l'hôpital est encore buté à plusieurs problèmes. Docteur Mubwana Zamuda.
L'hôpital n'est pas totalement sécurisé. Maintenant, là, nous venons de recevoir 60 matelas. On est dans des centaines de matelas. Au moment où la capacité d'accueil n'est pas de 100 malades. Donc, nous avons aussi un problème par rapport à la capacité d'accueil. Cette structure mérite une reconstruction. Ce n'est même pas un bâtiment à réhabiliter. À part l'infrastructure, l'hôpital n'a pas d'eau. Pour voir ne serait-ce qu'un bidon d'eau, il faut que l'hôpital achète. Et tout le monde sait que l'hôpital égale eau.
Conscient, les représentants du ministre parlent d'une première étape. Philippe Ounji.
Nous l'avions fait à titre humanitaire en faveur de notre population d'Alungouli et qu'il revient à la population d'Alungouli de protéger ses biens derrière la femme qui gère cet hôpital. Et donc, il s'agit d'un premier pas. Le lendemain, ça sera ailleurs parce que les besoins sont énormes, mais les moyens parfois sont limités.
Signalons que c'est suite aux cris des populations que le ministre Jean-Marie Kalumba a agi de la sorte. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Fin ce week-end à Lubumbashi de la semaine culturelle portant sur Simon Kimbangu. Pendant près d'une semaine, les participants, parmi lesquels les autorités locales, les scientifiques et des élèves, ont assisté à des conférences et des visites guidées, notamment de la prison centrale de Kasombo, où Simon Kimbangu a passé 30 ans. D'autres étaient avec le pasteur Jean-Jacques Mouyeye de l'église kimbanguiste et un des orateurs. Il est au micro de Jean Gandou.
Il y avait le récital des poèmes, des exposés, des débats, conférences, des thèmes qui étaient développés et débattus. C'était quid sur le kimbanguisme, qu'est-ce qu'est le kimbanguisme. Nous avons parlé du centenaire de l'église kimbanguiste et aussi la divinité de Papa Simon Kimbangu. Dans les jeux des questions-réponses, nous avons fait comprendre le kimbanguisme à tous les participants. Nous avons expliqué le centenaire de l'église kimbanguiste et la divinité de Papa Simon Kimbangu. Il y y a des jours où nous avons organisé des visites du temple de centenaire, la prison centrale de Kasombo où Papa Simon Kimangu a purgé sa peine pendant 30 ans, entre autres les lieux qui ont été plus exploités, l'endroit où il recevait 120 coups de fouet, le prix de torture après avoir été fouetté, l'endroit où il a fait 10 ans et l'endroit où il a fait 20 ans pour totaliser 30 ans. Le résultat a été obtenu de propager le kimbanguisme qui est par moments mal connu par certains Africains et certains Congolais.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes en Égypte. La Cour d'assises égyptienne de la sécurité de l'État a confirmé hier la condamnation à mort de l'ancien guide suprême par intérim des Frères musulmans. Il était accusé d'intelligence avec l'étranger et actes de terrorisme et de sabotage. Les faits remontent à janvier 2011 lors du soulèvement populaire contre Hosni Moubarak. Selon l'accusation, des membres du mouvement islamiste palestinien Hamas et du Hezbollah libanais ont franchi la frontière égyptienne à partir de Gaza pour attaqué 200 postes de police et les prisons où étaient enfermés les frères musulmans. Mahmoud Ezzat a été accusé avec d'autres hauts cadres et membres des frères musulmans d'avoir fourni des informations au Hamas et au Hezbollah pour accomplir leurs actes de terrorisme et de sabotage, actes qui ont entraîné la mort des dizaines de policiers et des militaires. Au moins 108 personnes ont été tuées aux Philippines pendant le passage du typhon Rai. Le plus puissant vent a frappé le pays en 2021, selon des bilans officiels publiés hier. Les secours tentent de fournir eau et nourriture aux habitants des îles dévastées.
L'invité.
211 combattants démobilisés, 290 armes récupérées, ce sont là quelques résultats enregistrés par la MONUSCO Sud-Kivu durant l'année 2021, mais les défis restent encore à relever, tels la cohabitation entre communautés qui reste fragile. C'est ce que pense le chef de bureau de la MONUSCO Sud-Kivu des actions menées dans cette province en 2021. Karna Soro s'entretient à ce sujet avec Rachel Kiesimbangu.
Monsieur Karna Soro, bonjour. Nous nous approchons de la fin de l'année et la fin du mandat de la MONUSCO sous la résolution 2556. C'est le 20 décembre 2021. Que retenir des actions de la MONUSCO Sud-Kivu sous cette résolution, surtout des actions qui ont réussi?
Très bien, merci. Comme vous le savez, donc la résolution actuelle s'articule autour de deux objectifs, la protection des populations civiles et le renforcement des institutions étatiques, la gouvernance, l'appui donc aux institutions gouvernementales pour la restauration de l'autorité de l'État. La représentante spéciale nous instruit de préparer au début d'année un plan de travail, ce que nous avons fait en coordination avec les autorités. Et sur ces deux grands axes, nous avons travaillé avec eux pour renforcer la protection des populations civiles à plusieurs niveaux. Nous avons travaillé là où c'est nécessaire avec nos forces, avec les FRDC et la PNC à protéger autant que faire se peut les populations. Nous avons travaillé avec les communautés pour faciliter les médiations, comme c'est le cas à Calais récemment. Nous avons eu un dialogue qui a pu faire avancer la cohabitation pacifique. Nous sommes intervenus aussi au niveau de Minembwe, Uvira. Il y a encore une semaine, nous avons facilité le déplacement du Conseil provincial de sécurité à Baraka pour rencontrer les différentes parties prenantes. Donc, nous avons travaillé avec les autorités et les communautés pour renforcer les mécanismes de protection de la population. Et puis de l'autre côté, nous avons travaillé aussi avec les autorités pour renforcer leurs capacités, comme vous le savez. Nous avons soutenu la formation pour les députés. Nous avons soutenu aussi récemment la formation et le renforcement des capacités du nouveau gouvernement provincial lorsqu'il a été mis en place. Nous travaillons avec les services correctionnels. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes en train d'appuyer le gouvernement pour la rénovation et la transformation de la prison de Kabaré en prison de haute sécurité. Nous avons travaillé avec les structures étudiantes dans les universités sur les questions de droits de l'homme. Nous avons travaillé aussi avec les associations de femmes sur toutes les questions quand même de renforcement de la représentativité des femmes dans les institutions. Donc nous continuons à travailler sur beaucoup de chantiers, donc sur ces deux objectifs qui nous étaient assignés par la résolution en place.
Quels sont les défis auxquels vous avez eu le plus à faire face dans l'exécution de votre mission au Sud-Kivu et lesquels restent encore à relever?
Sur les 5 zones stratégiques opérationnelles que nous avons, dans certaines zones, nous avons réussi quand même à faire un travail avec les populations et les autorités qui ont quand même amené un certain apaisement. Je donne le cas de la région de Calais, de Bouniakiri, dans cette zone. Et vous souviendrez qu'au mois de mars, on a eu des tensions dans la zone. Beaucoup d'efforts ont été fournis. Avec la MONUSCO, nous avons facilité le dialogue entre les communautés, nous avons travaillé avec les autorités provinciales s'y sont rendues à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on voit que ces tensions sont en train de s'atténuer. Il y a encore eu un atelier la semaine dernière à Calais où un certain nombre de résolutions ont été prises par les représentants des communautés. On voit aussi que depuis la semaine dernière, on a une 60aine de combattants qui se sont rendus d'un groupe armé assez connu dans cette zone-là aussi. Donc il y a des progrès qui se font. Nous avons aussi remis, avec le nouveau programme de désarmement, des diplômes de formation à 150 ex-combattants qui ont été formés à Bouniakiri, dans différents corps de métier. Les projets sont lancés pour les réinsérer dans l'aquaculture, dans l'agroforesterie, dans les transports, dans l'agriculture. Ce sont des résultats qui sont là, qui sont palpables, que nous avons fait donc sous l'autorité de la représentante spéciale. Nous avons aussi travaillé dans les zones de Shabunda, Mwenga. Il y avait beaucoup de tensions avec les populations. Malheureusement, il y a certaines zones comme les hauts plateaux d'Ouvira où les tensions persistent malheureusement entre les communautés, où nous avons encore un grand nombre de personnes qui sont déplacées. Quand bien même, dans ces endroits aussi, on pourrait quand même dire que dans certaines poches, on est quand même parvenu à aider les populations à se parler. Par exemple, récemment, les déplacés de Bibokoboko sont retournés à Bibokoboko avec l'appui des FRDC, avec un soutien à la MONUSCO. Nous sommes en train de travailler aussi avec les partenaires de la FAO pour le retour des déplacés de Bijombo. Nous avons distribué des semences dans la zone de Mikenge. Et donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais les défis restent que, dans un certain nombre d'endroits, la coexistence pacifique reste assez fragile.
Monsieur Carnassoro, je vous remercie.
Merci.
Le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, notre invité, était avec Rachel Kiesembangu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.